J'ai besoin de faire un ajustement à ce que j'ai quelque chose que j'ai partagé lors du message numéro 3 concernant la prééminence de notre Christ dans l'économie de Dieu et dans notre univers personnel. Et j'ai fait référence à cette portion dans laquelle j'ai donné 8 points de description de ce que veut dire aimer le Seigneur. Le point 7, j'aimerais le modifier. J'aimerais l'ajuster quelque peu. Et j'aimerais en fait passer en revue les 8 points pour nous donner comme un petit rappel, pour nous rafraîchir, pour nous passer en revue ces points. Pour que le Seigneur ait la première place, il doit d'abord être notre premier amour. C'est-à-dire, l'amour que nous lui portons doit être au-delà de tout ce que, de toute autre chose. L'amour que nous pouvons porter vers toute autre chose, de toute autre personne. Aimer le Seigneur, donc, c'est d'abord l'apprécier. Aimer le Seigneur, c'est focaliser notre être tout entier sur notre Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est s'ouvrir pleinement, ouvrir notre être tout entier au Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est se réjouir de lui. Aimer le Seigneur, c'est lui donner la prééminence. Aimer le Seigneur, c'est être un avec lui. Et voilà le point que j'aimerais modifier. Le point 7 que j'ai évoqué hier, j'ai dit que aimer le Seigneur, c'est être constitué de lui. Et j'aimerais ajouter ou associer le point 7 et 8. Aimer le Seigneur, c'est le vivre. Comme Paul l'a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et le point 8 reste le point 8 que j'ai évoqué hier, mais je l'enrichis quelque peu en disant que le point 8, c'est que aimer le Seigneur, c'est nous devenons le Seigneur en étant constitués de lui. Donc le point 7 est vivre le Seigneur, et le point 8, c'est devenir le Seigneur en étant constitués de lui. Nous devenons donc, comme nous l'avons dit, nous devenons celui que nous aimons. Vous pouvez tracer, vous pouvez revoir la façon dont l'amour évolue dans le cantique des cantiques. Celle qui recherchait le Seigneur devient la Sulamite, qui est la version, qui est le féminin de Salomon. Elle lui correspond à tous les égards, sous tous les aspects. La Bible se termine avec des noces, avec un mariage qui dure éternellement entre notre Dieu rédempteur et son épouse, sa mariée. Par la nature même du mariage, les deux doivent partager la même nature sous tous les aspects. Selon la vie, selon la nature, dans leur constitution, dans l'expression qu'ils ont. Et l'épouse, la mariée de l'agneau, sera comme cela, à une exception près, celui que nous allons épouser, notre Dieu rédempteur, lui seul a la déité. Nous n'entrerons jamais dans la déité. Il a certains attributs qui lui sont propres, que nous n'aurons jamais. Il existe en lui-même. Nous, ce ne sera jamais le cas. Il est omniprésent. Nous ne serons jamais omniprésents. Il est tout-puissant, il est omniscient. Mais de toutes les autres façons, tous les autres attributs, nous lui correspondons. Amen. Et cela donc nous amène à ce message numéro 5. Peut-être que certains viennent de nous rejoindre seulement ce matin. Et j'aimerais pas que vous deveniez mystifiés en songeant à ce que nous avons fait durant ce week-end. J'aimerais du coup vous donner un résumé de ce que nous avons déjà parcouru jusqu'à présent. Le sujet général de notre conférence est le dessein éternel de Dieu est accompli et l'économie divine est parachevée par les vainqueurs dans l'Église recouvrée. Au message numéro 1, nous avons considérer ce qu'est le dessein éternel de Dieu en nous appuyant sur sa volonté, son bon plaisir. C'est comme ça qu'il l'a établi. C'est le plan, c'est son intention, sa détermination intentionnelle d'avoir une expression corporative de lui-même en Christ, avec tous ses fils glorifiés, tous les fils de Dieu glorifiés. Dieu appelle cela l'Église. C'est de son point de vue. Voilà le point de vue de Dieu. Dans 2 Timothée 1:9, nous avons vu que nous avons été sauvés, pas selon nos œuvres, mais selon le propre, selon le dessein de Dieu. Au message numéro 2, nous avons vu comment le Christ vainqueur, comment il produit des vainqueurs. D'abord, nous avons évoqué l'Église recouvrée. Et le mot recouvrée indique que quelque chose était normal au commencement, du point de vue de Dieu. Cela a été perdu, endommagé, et il a fallu retrouver cet état initial, le recouvrer. Donc on peut dire qu'en 1517, le Seigneur a commencé à récupérer, à recouvrer, pardon, certaines vérités précieuses jusqu'à ce qu'il puisse recouvrir la véritable vie d'Église qui correspond à ce qui est indiqué dans le Nouveau Testament, notamment une ville pour une Église avec une seule administration comme l'expression du seul corps de Christ dans cette localité. Cette Église recouvrée, elle est symbolisée par l'Église de Philadelphie dans Apocalypse 3. Cette Église recouvrée n'est pas parfaite parce que nous y sommes, nous en faisons partie. Donc simplement en étant membre de l'Église, elle n'est pas parfaite cette Église. Mais c'est une Église authentique. C'est l'Église véritable dans la position qu'elle occupe et dans la nature qu'elle a. Et le Seigneur qui, lui, est le vainqueur, comme Jean 16 a dit, « Moi, j'ai vaincu le monde » dans Apocalypse 3, 21 et 5, 6, il se révèle comme le vainqueur. C'est lui le victorieux. Et à présent, il souhaite se reproduire en nous, afin que nous, pour accomplir le dessein de Dieu, et au nom du peuple de Dieu dans sa globalité, nous puissions défaire, vaincre tout les stratagèmes, toutes les attaques de l'ennemi, du côté négatif et du côté positif, nous puissions mener à bien tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Au message numéro 3, je crois que nous avons vraiment apprécié, c'était un moment très précieux que nous avons partagé ensemble, de comprendre que dans l'économie de Dieu, Christ a la prééminence, Christ a la première place en tout. Et il doit également avoir la première place dans notre univers personnel. Comment Christ pourrait-il avoir la première place, dans l'Église corporativement, collectivement, s'il n'a pas d'abord la première place dans notre univers personnel? Donc nous sommes aujourd'hui dans ce processus de donner à Christ la première place. Et le message numéro 4, nous avons considéré deux sujets qui sont liés à Apocalypse chapitre 3 concernant l'Église recouvrée. D'abord, nous avons parlé de l'expérience de Christ de trois façons bien spécifiques. Faire l'expérience de Christ, nous voulons faire l'expérience de Christ comme celui qui est saint, absolument consacré à Dieu, saturé de Dieu, qui vit entièrement envers Dieu et qui fait de nous, il nous rend pareil. Il est le véritable, le Seigneur est le véritable, c'est le deuxième point. Il est le vrai, le véritable. Il est authentique et il fait de nous la même chose. Et le troisième point, ce Christ-là, il a la clé de David. David est un type de David qui est lui le véritable roi. Ça veut dire, cette clé renvoie à l'autorité du royaume qui permet d'ouvrir tous les trésors qui sont cachés dans l'être de Dieu dont nous pourrons nous réjouir jusque dans l'éternité. Dans l'éternité, nous pourrons nous réjouir de toutes ces richesses pendant des trillions d'années. On ne pourra jamais dire, j'ai déjà fait cette expérience, je suis arrivé au bout de toutes les expériences. Il est inépuisablement riche. Cela ne s'arrêtera jamais. La réjouissance ne fera que s'accroître, que d'aller d'un niveau à un autre. Et d'un autre côté, le deuxième aspect de la clé, cette clé de David permet au Seigneur d'ouvrir toutes les portes qu'il souhaite ouvrir et fermer toutes celles qu'il souhaite fermer. C'est l'exercice de l'autorité du royaume pour mener à bien son économie. Nous arrivons à présent, finalement, à un verset en particulier que je vais vous lire. C'est Apocalypse 3, 12. Et donc ce verset a vraiment capturé mon attention de plus en plus profondément depuis la formation Itero que nous avons eue à Gold Coast, en Australie, que nous avons eue il y a trois ans de cela. Et ce verset devient de plus en plus profond pour moi. Donc Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. La deuxième partie du verset, et on le verra également à la fin de ce message, c'est le point culminant. Lorsque le Seigneur obtiendra ce que nous allons voir, il reviendra. Parce qu'il a dit, donc au verset 11, « Je viens bientôt ». Voilà la parole du Seigneur, « Je viens bientôt ». Et je crois qu'il aimerait que nous tous, que nous puissions lui demander de répondre à sa parole, d'accomplir sa parole. Il a dit cela il y a plus de 2000 ans. Nous sommes d'accord que ta vision du temps est différente de la nôtre, Seigneur. Mais nous aimerions que tu accomplisses ta parole, que tu fasses ce que tu nous as dit. Mais pour pouvoir lui demander une telle chose, nous devons entrer pleinement dans la réalité de la deuxième partie du verset, qui nous dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Et le fardeau intrinsèque, le cœur du fardeau dans cette conférence est le suivant, que nous puissions commencer à comprendre ce que veut dire dans la réalité, dans notre expérience. Qu'est-ce que cela veut dire que le Seigneur écrive le nom de son Dieu sur nous? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire que le Seigneur écrive sur nous le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem? Et qu'est-ce que cela veut dire également que le Seigneur écrive sur nous son nom nouveau? Comme nous le savons tous, Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Et ce livre-là contient le parachèvement de toutes les révélations qui ont été égrenées au travers de toute la Bible. Ce qu'il y a dans Daniel, ce qu'il y avait dans Ézéchiel, ce qu'il y avait dans Ésaïe, tout se trouve parachevé dans Apocalypse. Dans les psaumes, tout se parachève avec Apocalypse. La révélation que l'on retrouve dans ce livre d'Apocalypse est tellement profonde qu'elle a été transmise d'une façon tout à fait particulière. Et je suis navré de dire cela, mais beaucoup de ceux qui étudient le livre d'Apocalypse, beaucoup d'érudits, de ceux qui étudient la Bible, ceux qui écrivent des commentaires, ceux qui étudient, ceux qui publient certaines choses, lorsqu'ils parlent de la Nouvelle Jérusalem, ils sont complètement perdus. Ils pensent que c'est peut-être une navette spatiale qui avance vers la Terre, qui avance à la vitesse de la lumière depuis quelque part dans l'univers et qui avance vers nous. Certains disent que c'est une plateforme spatiale qui tourne autour de la Terre. Certains disent que c'est une pyramide gigantesque dans laquelle nous aurons tous notre petit appartement. Chacun a sa théorie. Ils oublient en fait de considérer le verset 1 d'Apocalypse qui dit « La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné afin de montrer à son esclave les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par des signes. » Et donc le mot grec, siméa, d'où nous dérivons le mot signe, veut dire ici un symbole à qui on associe une signification spirituelle. Lorsque Jean a vu un agneau sur le trône, il n'a pas vu un agneau qui fait baie sur le trône. Non, il a vu le Rédempteur qui est l'agneau de Dieu. Donc, lorsque nous évoquons la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse, c'est également un signe. Ce n'est pas une grande ville, une métropolis, une énorme ville. C'est absurde, quelque part, de penser ainsi. Donc, comme introduction, pour que nous puissions entrer vraiment dans le fardeau et dans le cœur de ce plan, j'aimerais vous lire quelques versets supplémentaires du chapitre 21 qui vont nous aider à avoir la bonne compréhension de ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas les cieux, ce n'est pas le paradis. Parce que la Nouvelle Jérusalem descend depuis les cieux. Donc ça ne peut pas être le ciel. Ainsi, soit vous suivrez la pensée centrale, la pensée divine qui est dans l'Apocalypse, qui dit que c'est un signe, c'est un symbole avec une signification spirituelle d'une certaine réalité. Ou alors vous insisterez en pensant que c'est un endroit physique et vous le prendrez littéralement. Ainsi, au chapitre 21, en commençant par le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Et la Nouvelle Jérusalem, nous allons le voir, descend sur cette nouvelle terre. Et je vis la cité sainte, Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une mariée, parée pour son époux. Comment pourrions-nous dire d'Amsterdam que Amsterdam est préparée, se prépare pour son époux? C'est bizarre de dire une chose pareille, c'est un peu étrange, non? Mais si dans votre pensée, c'est une ville physique, alors vous devez inventer des choses un peu bizarres comme ça pour l'expliquer. Mais alors que ici, Jean donne un petit indice. Ce n'est pas une ville matérielle. Non, c'est une personne dont il s'agit ici. Une personne corporative qui se compose de tous les croyants rachetés, régénérés, transformés et glorifiés au travers de tous les âges. Et elle a l'apparence d'une épouse qui est parée, qui est préparée. Cela renvoie au chapitre 19, verset 7. « Réjouissez-vous et exultez, car les noces de l'agneau sont arrivées. » Il va y avoir des noces, un mariage. Et l'épouse s'est préparée. Est-ce que le Seigneur Jésus va épouser une ville? Non, absolument pas. Les théologiens, réveillez-vous, c'est un signe dont il s'agit ici. On en parle même dans les évangiles. Le Seigneur est venu comme l'époux pour avoir son épouse. Dans Jean chapitre 3, c'est clair. Celui qui a l'épouse est l'époux. Dans Jean chapitre 3, nous croyons en le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle pour être régénérés, pour être dans le royaume et pour être l'épouse. Ainsi, nous avons ce verset qui vient du ciel, d'auprès de Dieu, préparé comme une mariée, paré pour son époux. J'entendis du trône une voix forte, une forte voix, qui disait « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il s'établira comme tabernacle avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » Allons maintenant regarder le verset 9, qui nous dit « Et un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies, vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Si un frère, je ne vais pas faire cela, mais si un frère se mariait et la cérémonie se tenait, par exemple, dans un pays éloigné, et donc le marié arrive avec son épouse pour s'installer, et que donc, l'époux nous dise, je veux vous présenter mon épouse, ma mariée. Vous vous attendriez à voir une femme, n'est-ce pas? Une femme, un être humain, une femme. Ce serait votre attente, normalement. Donc, regardons à présent. Voilà ce que Jean, ce qu'on a dit à Jean, viens ici, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Donc, je veux mettre l'accent ici. Peut-être que vous connaissez bien les versets, mais je veux vraiment mettre l'accent ou souligner l'impression que nous devrions avoir. La mariée, l'épouse de l'agneau, nous voulons la voir. C'est la clé ici de toute la conférence. Nous devons voir qui est cette mariée. Nous devons voir ce que Jean a vu. Ainsi, il m'a emmené en esprit, il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la cité sainte, Jérusalem. On aurait peut-être pu s'attendre, il m'emporta et il me montra ce complément, cette épouse magnifique, apprêtée pour être l'épouse de l'agneau. Mais non, le verset nous dit, il me montra, une cité. Donc, soyons simples, ne soyons pas illogiques ici dans notre compréhension. L'épouse de l'agneau du verset 9 et la cité sainte Jérusalem du verset 10. Donc soit l'épouse est une véritable ville ou la ville est une désignation, qui vient qualifier la nature de l'épouse, la mariée, l'épouse de l'agneau. Parce que cette ville est véritablement une personne. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit. Nous n'allons pas dans un endroit, ce n'est pas notre destination. Soyez prêts, nous devenons une personne collective. Donc, la mariée, l'épouse de l'agneau, nous pouvons également la désigner comme la ville, la cité. Parce qu'il y a un précurseur dans Jean chapitre 3. Nous devons être régénérés, nés de nouveau, pour voir le royaume de Dieu. Nous devons être nés de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais plus tard, dans le même chapitre, les versets nous disent « Celui qui a l'épouse est l'époux ». Le royaume de Dieu, ici, et l'épouse ne sont pas deux choses, deux entités séparées. Ce sont deux désignations différentes pour la même personne corporative. Pour que l'Église, qui est le corps de Christ, pour que l'Église devienne le royaume, cela indique que le royaume est un organisme. Donc finalement, je ne sais pas si cette pensée vraiment trouve de la place dans votre cœur par rapport au concept que vous pouviez avoir précédemment. Nous sommes proches du parachèvement de toute la Bible. La Bible se parachève avec des noces, avec un mariage. Nous avons ce verset qui nous dit que l'épouse et la mariée, l'esprit et la mariée disent « Venez ». Il y a une vision de l'épouse et du marié qui descendent du ciel, qui viennent d'auprès de Dieu. Regardons à présent certaines caractéristiques de cette ville épouse. Cette ville avait la gloire de Dieu. Verset 11. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la gloire de Dieu, c'est Dieu exprimé. Comment pouvons-nous avoir la gloire de Dieu si vous n'exprimez pas le Dieu même qui a été œuvré en nous, en vous, forgé en vous? Mettons les versets ensemble. 2 Corinthiens 3:18, nous sommes en train d'être transformés à son image de gloire en gloire. Nous aurons un corps glorifié. La gloire est un attribut de Dieu. La gloire, c'est Dieu exprimé. Et donc la première caractéristique de cette épouse, c'est qu'elle a la gloire de son époux. Elle exprime son époux. Dans 1 Corinthiens 3:11, la femme est la gloire de l'homme. Je crois que c'est ce que ce verset nous dit dans 1 Corinthiens 3:11. Je crois que c'est ça. Vous pouvez me corriger après la réunion. Vous pouvez me corriger après la réunion. Donc cette épouse, elle a la gloire de Dieu. Et sa lumière était comme une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Peut-être que certains entendent cela pour la première fois. Sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons la pierre de jaspe dans le livre d'Apocalypse. Regardons le verset chapitre 4, 3. Il est emporté dans les cieux, il est dans l'esprit. Verset 2 nous dit qu'aussitôt je fus en esprit, donc c'est Jean qui parle. Et voici, il y avait un trône établi dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à une pierre de jaspe. On nous dit ici que Dieu est semblable à une pierre de jaspe. C'est un vert profond qui typifie, qui symbolise la vie, la vie riche. C'est Dieu qui est exprimé. Donc nous avons ici l'épouse dont l'apparence est semblable à une pierre de jaspe. Parce que Dieu qui est sur le trône, qui également, cette pierre de jaspe, a été constituée dans l'épouse, la mariée, l'épouse de l'agneau. Donc la lumière de l'épouse, elle resplendit, et cette lumière est une lumière semblable à une pierre de jaspe, qui est Dieu lui-même sur le trône, qui se manifeste dans sa lumière, transparente comme du cristal. Son être tout entier est maintenant transparent. Transparent comme du cristal. J'aimerais vous lire peut-être un verset de plus, et puis nous regardons le plan. Le verset 18 au chapitre 21, toujours. Sa muraille était construite en jaspe, et la cité était d'or pur, semblable à du verre transparent. Donc à nouveau, on parle de la ville, de la cité, qui est d'or pur. Est-ce que c'est là que les croyants vont venir vivre plus tard dans une ville en or pur? Et vous pourriez voir dans l'appartement des autres, tout est transparent, il y a de l'or transparent. Non, c'est absurde d'avoir de telles pensées. Pourquoi est-ce que certains, plus de théologiens, ne pourraient simplement pas dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis dans ta parole. Si vous le pensez vraiment, alors j'ai un cadeau à vous donner. J'ai une version recouvrement du Nouveau Testament à vous donner. » Pourquoi ne liriez-vous pas les notes de bas de page? Admettez tout simplement, vous ne l'avez jamais considéré ou l'avez jamais vu comme ça auparavant. Admettez-le tout simplement. Vous avez besoin de recevoir de l'aide de personne dans le ministère qui pourra vous indiquer la vérité, qui pourra vous aiguiller. Cette ville est transparente, comme du verre transparent. Elle est d'or pur, elle est transparente, elle a la gloire de Dieu, elle a l'apparence de la pierre de jaspe. Voilà une description d'une personne. Parce que l'évocation, au verset 2 et verset 9, Cela, ces choses-là définissent la nature de la Nouvelle Jérusalem. Elle vient depuis d'auprès de Dieu. Elle est parée comme une épouse pour son époux. Cela doit être une personne. Aucune ville littérale ne serait parée pour son époux. Qui penserait comme ça? La ville de New York, la ville de Paris, la ville de Moscou, la ville de Johannesburg? Non, aucune ville n'est comme ça. C'est ridicule d'avoir ce genre de considération. C'est un signe. La révélation est tellement profonde que nous ne pouvons pas la saisir pleinement avec des mots. Donc c'est un signe avec une signification spirituelle. Et voilà le point culminant de la révélation dans la Bible tout entière. C'est l'accomplissement de l'économie éternelle de Dieu, d'avoir le nouveau ciel, la nouvelle terre, comme l'environnement qui permettra de contenir ce couple marié, le Christ tout inclusif, qui est passé par un processus, qui est parachevé, qui est le Dieu trinitaire, dispensé en nous, avec son peuple choisi, régénéré, sanctifié, renouvelé, transformé, conformé, glorifié, qui lui correspondent dans tous les aspects. Ainsi, le mariage peut avoir lieu. Ensuite, en ayant tout ça dans un coin de la tête, nous en reparlerons. Comme on l'évoquait tout à l'heure au chapitre 3 d'Apocalypse, avoir le nom de la cité de mon Dieu, inscrit sur nous, inscrit en nous. Je vous donne un petit aperçu de la fin. Parfois, on va directement à la fin pour voir un petit peu comment les choses vont se dérouler ou se terminer. Eh bien, cela veut dire que les vainqueurs dans l'Église recouvrée sont maintenant devenus sa nouvelle Jérusalem. C'est une désignation. C'est une appellation pour les définir ce qu'ils sont. C'est ce que vous êtes devenus. C'est ce que vous êtes à présent. Votre nom vous désigne, vous qualifie. Ce n'est pas simplement une histoire de dire j'achète un livre que le frère nous a présenté pendant la conférence et que j'inscris mon nom sur ce livre-là pour indiquer que ce livre m'appartient. Ce n'est pas faux de dire ça, mais c'est un peu trivial, c'est un peu superficiel. Est-ce que ça veut simplement dire que nous appartenons à la Nouvelle Jérusalem? Non, c'est plus profond. Souvenez-vous, nous devenons une colonne dans le temple de Dieu, et Dieu, le temple, pardon, est Dieu lui-même. Donc parce que nous avons été bâtis dans le Dieu trinitaire et lui en nous, le Seigneur peut alors dire, vous, les vainqueurs dans l'Église recouvrée, vous êtes devenus la nouvelle Jérusalem. Ce qui veut dire que vous êtes devenus l'épouse. Vous faites partie de l'épouse parée pour son époux. Vous allez permettre à l'époux de revenir. Voilà ce qu'il attend, notre Seigneur. Tellement de personnes essayent d'interpréter la situation du monde en disant « Est-ce l'Antichrist ici? On voit cette situation ici, on voit des signes là, le Seigneur revient. » Moi, j'oublie toutes ces choses-là. Ce qu'il y a dans mon cœur, il y a une seule chose, c'est l'épouse se prépare, se part pour son époux. Je voyage dans le monde entier. Ce qu'il y a dans mon cœur, et que nous puissions tous devenir l'épouse, maintenant, à présent, parmi nous, dans notre vie sur terre, dans l'Église recouvrée. Nous ne sommes pas ici seulement pour mener à bien la voie prescrite par Dieu comme une fin en soi, ou nous retrouver, avoir des réunions selon les principes du Nouveau Testament, et servir selon les préceptes de Dieu. Tout cela est nécessaire, évidemment, mais ce n'est pas le sujet intrinsèque, principal, fondamental. Souvenez-vous, les églises locales, l'église recouvrée n'est pas le but, c'est la procédure. Le but est le corps de Christ qui devient l'épouse de Christ. et c'est dans l'Église recouvrée, avec les saints qui ont été produits comme les vainqueurs, eux parachèvent tout cela, permettent le parachèvement de tout cela. Ils deviennent véritablement Dieu dans sa vie, dans sa nature. Ils deviennent, ils correspondent à Christ, ils vont l'épouser. Ils lui correspondent dans la vie, dans la nature, dans l'expression. Ils sont devenus la nouvelle Jérusalem. Alors le Seigneur dit à son Église, « Je te préserverai de la tribulation », ce qui veut dire que je t'enlèverai avant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Et cet enlèvement est l'enlèvement de Apocalypse 14, c'est l'enlèvement des prémices qui font partie de cette partie de la récolte, qui sont arrivées à maturité en premier. Et cela a du sens que le Seigneur leur dise à cela, « Je viens bientôt ». Et je crois que plus ce processus se déroule en nous, que nous allons décrire en regardant le plan, plus notre sens s'affinera. Je ne veux pas prophétiser, quoi que ce soit, mais il y a un verset. Dans Amos, chapitre 3, et je crois que le Seigneur appliquera ce verset qui dit que le Seigneur Dieu ne fait rien sauf à moins de le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et je crois que le Seigneur, alors que nous progressons et que nous arrivons vers la fin, libérera des fardeaux avec ceux qui libéreront, qui partageront le ministère pour nous dire « voilà où nous en sommes, voilà notre situation ». Il nous tiendra au courant. Je crois que beaucoup d'entre nous nous serons encouragés et motivés à jour après jour. Il nous reste du temps, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons suffisamment de temps pour parvenir à cette chose-là, à cette réalité. Chaque jour est tellement précieux. Seigneur, nous devrions lui dire « grandis en moi ». Édifie-moi, bâtis-moi, transforme-moi encore un petit peu aujourd'hui. Je veux te contempler, je veux te refléter, je veux aller de gloire en gloire. Je veux plus de gloire dans 6 mois qu'aujourd'hui, plus de gloire dans 1 an qu'aujourd'hui, ou que dans 6 mois. Amen. Nous le verrons cela, que le Seigneur me couvre en disant cela. Cela fait partie de ma portion dans le ministère. Mes yeux sont fixés là-dessus, mon cœur est fixé là-dessus aussi. Je ne suis pas là pour espionner ou pour critiquer ou pour juger. Je suis là, je regarde simplement. Et c'est très clair ce qui doit être produit pour que le Seigneur... Oui, les choses qui doivent entrer dans les saints, nous devons tous avoir cette poursuite ensemble. Nous sommes dans l'Église recouvrée. Nous sommes l'Église recouvrée. Devenons ici les vainqueurs, produits par le Christ vainqueur. Le Christ, oui, vainqueur. Amen. Amen. Message numéro 5. Nous allons regarder le plan. Nous allons parler de ce qu'on appelle le point culminant de la révélation divine qui nous a été partagé comme le point culminant du ministère du frère Lee durant ces 3 dernières années. Et cela m'a vraiment encouragé. Ceux qui sont presque seniors, soyez encouragés par de telles paroles. Les années les plus utiles dans les mains du Seigneur est entre 60 ans et 80 ans. Donc lorsque j'avais, moi, 50 ans à l'époque, j'étais déçu. Je me dis, oh, c'est une période terrible. C'était mon sentiment. Mais lorsque j'allais avoir 60 ans, je me suis dit, ça y est, la vie commence à 60 ans. Je viens juste de commencer, je suis à... Mais donc le frère lui a dit, entre 60 ans et 80 ans, qu'est-ce qui se passe quand vous avez 80 ans? Quelle est la situation alors? Alors il a dit plus tard, le frère Lee, lorsque vous avez 80 ans, en fait, donc, en gros pour dire ça ne s'arrête jamais, vous êtes utile au Seigneur. Donc il a commencé les études de vie quand il avait 69 ans, le frère Lee. Il a commencé à écrire les études de vie quand il avait 69 ans. Et il a fini quand il avait quasiment 90 ans. Il a commencé à partager les études de cristallisation, les études de vie, et à partager le point culminant de la révélation. Et là, il a donné plusieurs messages jusqu'à ce que le Seigneur l'emmène. Et nous sommes les héritiers bénis. Nous sommes les Isaac de cet Abraham. Donc nous recevons ce ministère, comme je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, pas aveuglément, pas, oui, sans faire attention. Non, nous prions, nous étudions la parole, nous recherchons la confirmation dans la parole, mais notre être, à nous, peut le confirmer comme pour beaucoup d'autres. Notre être intérieur nous dit « Amen ». Amen à ce qui est partagé dans le ministère. Le sujet du message 5, être constitué du Dieu trinitaire, passé par un processus et parachevé et devenir la nouvelle Jérusalem. Grand 1, la vision qui gouverne dans la Bible, la vision. Si vous avez vraiment vu cette vision, une vision, pas une expérience extraordinaire, je ne parle pas de ça, mais une vision, je parle d'une vision. Une vision contient trois éléments. La révélation, les voiles sont ôtées. D'abord, la lumière divine brille dans votre être intérieur et les yeux de votre cœur sont éclairés. Paul a prié pour cela dans Éphésiens chapitre 1. Il a prié au Père de gloire de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la révélation, dans la pleine connaissance de lui, afin avec, oui, et que nous, les yeux de notre cœur soient éclairés, soient illuminés. Lorsque le voile est ôté, c'est la révélation, la lumière brille et les yeux de notre cœur sont ouverts ou sont moins, eh bien, nous voyons graduellement quelque chose, une vision. C'est une vision, c'est une scène extraordinaire qui se révèle à nous. C'est une vision qui nous gouverne, qui nous préserve, qui nous dirige, qui nous motive. Donc la vision qui gouverne, la vision directrice dans la Bible, est le Dieu trinitaire s'œuvrant dans son peuple élu, et racheté, donc c'est le Dieu trinitaire, s'œuvrant dans son peuple élu et racheté. Éphésiens 3 parle de cela, il fait de notre cœur sa maison. Christ fait sa demeure dans notre cœur. Nous ne pouvons pas séparer les trois de la Trinité, de la déité. Le Père est dans le Fils, le Père est là aussi. La réalité de Christ, c'est l'Esprit comme c'est l'Esprit. Donc Christ fait de notre cœur sa maison aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui, le Seigneur gagne un peu plus de place dans mon cœur aujourd'hui. Qu'en est-il pour vous? N'avez-vous pas le sentiment que le Seigneur a gardé un peu plus de place dans votre cœur pendant les deux derniers jours, depuis vendredi? Merci Seigneur d'être avec nous. Afin de saturer leur être entier de la Trinité divine, pour produire et édifier l'Église en tant que le corps de Christ qui se parachève dans la nouvelle Jérusalem. Éphésiens 4, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit avec le corps. Les quatre sont en un. Un corps, un esprit, un Seigneur, un Dieu et Père de tous. Et ce corps devient, se parachève dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, la mariée. Grand 2, le contenu principal du Nouveau Testament est que le Dieu trinitaire a une économie éternelle selon sa volonté et son bon plaisir, qui consiste à se dispenser avec sa vie et sa nature divine, dans son peuple élu et racheté, afin de faire d'eux sa duplication, pour qu'ils l'expriment. Cette expression collective se parachèvera dans la nouvelle Jérusalem. Donc, lorsque Dieu souhaite faire pour nous, en nous, chaque jour, cela enrichira votre vie, enrichira, pardon, votre vie. Si vous vous rendez compte que chaque jour, ce qu'il y a dans le cœur de notre Seigneur, il souhaite se dispenser, se transmettre en vous un peu plus aujourd'hui. Il veut que vous veniez auprès de lui, que vous tourniez votre cœur vers lui, que vous exerciez votre esprit. Alors que vous êtes éclairé, vous réalisez. Je dois régler certaines choses, je dois confesser certaines choses. Vous confessez alors, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, vous purifie. Alors, beaucoup d'entre nous, ça fait partie de notre vie quotidienne. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de Christ comme la réalité de toutes les offrandes. Seulement toi, Seigneur, es absolu pour Dieu. Nous avons besoin de toi comme l'Holocauste, comme l'offrande de péché. Mon corps est toujours dans l'ancienne création. C'est un péché, un corps de mort, un corps de péché. Mais je t'ai toi comme mon offrande pour le péché. J'ai besoin de toi comme mon offrande pour les transgressions. J'en ai besoin tout le temps. Tu es l'offrande de fleurs de farine. Tu es la seule véritable personne humaine avec toutes tes vertus. Tu es également la véritable offrande de paix. Nous, lorsque nous avons cette position-là, le Seigneur souhaite se donner à nous, se dispenser en nous. Et la dispensation, elle s'accompagne de certains sens intérieurs. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons le repos, nous avons la satisfaction. Voilà le sens intérieur que vous avez alors lorsqu'il se dispense en vous. Quelle façon merveilleuse de vivre jour après jour. Extérieurement, évidemment, nous rencontrons toutes sortes de situations, mais dans ces journées-là, pendant toute la journée, le Seigneur se dispense en nous. Donc une semaine, c'est important. Un mois est très important. Une année est importante également. Tout ce temps compte. Nous avons 365 jours de dispensation. N'est-ce pas merveilleux? C'est formidable. Voilà sa façon de faire. Petit à petit, jour après jour. Voilà comment il procède. Ceux d'entre nous qui nous sommes nés, nous avons été éduqués aux États-Unis, nous devrions nous tenir contre la culture américaine qui nous pousse à être rapide, vif, pas de patience. Tout doit être fait instantanément, comme avec un micro-ondes. Et cela va vous tromper si vous réfléchissez comme ça. Vous devriez plutôt, si vous voulez faire des choses artificielles, si vous voulez avoir une rose artificielle, ça peut se faire très rapidement. Mais si vous voulez grandir ou une véritable rose, il faut avoir de la patience. Pour avoir quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, il faut du temps. Donc voilà, il nous faut du temps pour se développer d'une semence que nous étions dans le ventre de notre mère pour devenir un petit enfant, pour devenir un adulte mûr. Nous suivons ce processus. Voilà la façon dont Dieu opère. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a certaines choses pour lesquelles, peu importe à quel point nous nous soucions des uns des autres et nous nous aimons les uns les autres et nous portons les uns les autres et nous prions les uns pour les autres et nous combattons l'ennemi les uns pour les autres, il y a certaines choses que nous ne pouvons faire que pour nous-mêmes. Nous ne respirons que pour nous-mêmes, par exemple. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour boire de l'eau pour vous ou pour manger vos repas à votre place. Seulement vous pouvez dire pour vous-même, vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, je t'aime ». Seulement vous pouvez renier votre moi. Seulement vous pouvez vous ouvrir au Seigneur. On ne va pas essayer de s'ouvrir les uns les autres, ouvrir les autres. Mais le Seigneur ne vous laisse pas tout seul à faire cela à votre propre compte. Il va vous approvisionner, il va vous donner sa grâce. Mais cela se produit entre vous et le Seigneur. Nous avons tous besoin d'apprendre comment avoir une vie personnelle, une histoire personnelle même, avec le Seigneur qui est inconnu des autres, qui est caché des autres. Une vie cachée en Christ avec Dieu. Cachée en Dieu avec Christ, pardon. C'est là, dans cette relation-là, que vous pouvez tout lui confier. Vous pouvez tout lui dire. Vous pouvez lui raconter tout ce qui se passe, toutes les situations que vous rencontrez. Ça ne le choque jamais. Il sait tout à fait ce que vous traversez. Il n'enverra jamais un ange pour vous frapper. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de votre être. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dans un groupe, dans une réunion. Nous devons simplement apprendre à avoir une telle vie avec et auprès du Seigneur. Et alors, notre vie d'Église sera saturée de réalité et nous deviendrons l'expression corporative de Dieu. Ainsi, cela se produit afin que le Seigneur puisse faire de nous sa duplication, pas dans la déité, dans la vie, dans la nature, afin que nous l'exprimions. Nous ne pouvons exprimer que ce que nous sommes. Si vous voulez exprimer quelque chose que vous n'êtes pas, c'est de la fausseté. C'est comme si vous aviez un masque, c'est comme si vous étiez au théâtre, vous faites une performance théâtrale. Si nous voulons exprimer Dieu, nous devons devenir Dieu dans sa nature, dans sa vie. Et cette expression collective se parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est le nom d'une cité, c'est la désignation d'une personne, et qui se parachève dans l'épouse. Je crois que tous ici, nous voulons éviter la situation décrite dans la première partie de Matthieu 25. Nous avons là 10 vierges dans Matthieu 25. 5 sont prudentes parce qu'elles ont payé un certain prix pour avoir de l'huile, de l'esprit dans leur âme, une portion supplémentaire de cet esprit qu'elles ont acquis, et les autres étaient insensées. Les 5 autres. Et lorsque le Seigneur vient, les insensées demandent aux prudentes, donnez-nous un petit peu d'huile. Et elles répondent, nous ne pouvons pas nous vous en donner, nous n'en aurons pas assez. Allez plutôt vous en acheter vous-même. Puis l'époux arrive, les vierges prudentes entrent dans la présence du Seigneur, les autres reviennent plus tard et tapent à la porte. Et on leur répond, vous n'êtes pas qualifiés pour entrer dans le festin des noces. Vous êtes bien sauvés pourtant. Je ne veux pas mettre l'accent sur cette réalité du royaume. Nous avons cette foi commune que nous avons évoquée ce week-end. Mais connaître la vérité liée au royaume, ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Je ne mettrai pas l'accent dessus, mais c'est très important, ça a bouleversé ma vie. Notre Dieu et Père connaît notre nature. Nous sommes sauvés éternellement. Nos péchés ont été pardonnés. Ils ont été oubliés. Il connaît notre tendance à vivre dans la sphère des choses qu'il permet et pas dans celle des choses qu'il a ordonnées. Donc, il a donné le royaume millénaire comme une récompense qui sera donnée aux vainqueurs. Si certains vous ont appris que simplement parce que vous êtes un croyant, vous régnerez avec Christ pendant 1000 ans, on vous a mal instruit. C'est vraiment les aveugles qui guident d'autres aveugles. Je ne veux pas argumenter et débattre ici, mais j'ai cette responsabilité de vous dire la vérité. Je ne suis pas ici focalisé sur moi, sur mon envie d'être dans le royaume, d'être dans les noces, dans le festin des noces. Ce n'est pas une histoire de ce que moi je veux, Ron Kangas. Je veux que vous tous, vous puissiez avoir cette récompense. Sinon, pourquoi ? Là où je suis dans la vie aujourd'hui, pourquoi est-ce que je viendrais jusqu'ici? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas plutôt ma retraite en prenant un appartement à Hawaï et puis manger des pop-corn et boire du sirop d'ananas? Mais non, en fait, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que nous voulons. Oui, nous voulons tous avancer dans ce sens-là. Et vous aussi. Donc je ne prends pas ma retraite, je suis auprès de vous. Le point culminant de la révélation divine, nous sommes au grand 3, est que Dieu devint homme afin que l'homme puisse devenir Dieu en vie et en nature, mais pas dans la déité. Êtes-vous les enfants, ou vos enfants, pardon, ont la même nature, la même vie que vous, n'est-ce pas? Sommes-nous ou sommes-nous pas les enfants de Dieu? Romains 8,16 nous dit que l'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous avons un Père qui est véritablement notre Père. Ce n'est pas un titre religieux. C'est notre Père. C'est notre Abba Père. Mais Lui seul a la paternité. Lui seul est le Père dans la déité. Nous savons très bien cela. Nous sommes... Lui seul est le Père, mais nous avons sa vie et sa nature. Donc pour produire et édifier le corps organique de Christ pour l'accomplissement de l'économie de Dieu, pour terminer cet âge et ramener Christ à établir son royaume. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes proches de la fin de l'âge. Ce que le Seigneur, là, maintenant, je vous assure, ce qu'il recherche, c'est l'épouse préparée, l'épouse qui se prépare. Et pendant que je respire encore, tant que je suis encore en vie, tant qu'il me reste de l'énergie, je parlerai de cela encore et encore. Parce que voilà ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur. Il viendra envers les nations comme le Fils de la justice. Et il jugera toute l'iniquité qui se trouve sur la terre. Absolument, totalement. Il abolira tous les gouvernements humains et toute leur corruption. Il établira son royaume. Mais il viendra secrètement pour les croyants, pour ses vainqueurs, pour son épouse, pour l'enlever, pour se la présenter, pour la présenter au Père. Et là, il y aura les noces de l'agneau. Le festin des noces débutera. Moi, je respire, je vis pour l'épouse. Cela vient du Seigneur, ce n'est pas de moi, c'est vraiment le désir du Seigneur. Mon épouse et moi, nous vivons pour cela, nous prions pour cela. Notre vie ensemble, elle est pour ça. Nos prières sont tournées vers ça. Voilà le désir qui est dans le cœur du Seigneur, que nous voulons satisfaire. Cette grande attente qui est dans le cœur du Seigneur, le désir de son cœur, qu'il est doux de pouvoir le rencontrer et de l'entendre dire une chose pareille, par exemple. Tu as fait du bon travail, ta vie a contribué à l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Ta vie, ton être même, a permis de satisfaire le désir qui est dans mon cœur. Entre à présent dans ma joie. Puis 1000 ans, nous nous réjouirons de 1000 ans de joie ensemble. Alléluia. Cela terminera cet âge. Et cela ramènera Christ et il établira son royaume. L'économie de Dieu est son intention de se dispenser dans sa trinité divine, dans son peuple élu et racheté pour être leur vie et leur nature, afin qu'ils soient comme lui pour son expression collective. L'économie de Dieu consiste à ce que Dieu devint homme pour nous faire Dieu en vie, en nature et dans l'expression, afin que nous puissions mener une vie d'un homme-Dieu et devenir le corps de Christ. Dieu nous a rachetés dans le but de nous faire Dieu en vie et en nature, afin qu'il puisse avoir le corps de Christ, qui se parachève dans la Nouvelle Jérusalem, comme l'élargissement et l'expression de Dieu pour l'éternité. Nous avons été sauvés pour le corps, sauvés pour le nouvel homme, sauvés pour le royaume, sauvés pour l'épouse. Nous avons été sauvés pour la nouvelle Jérusalem, l'épouse, la mariée. Voilà le sens de notre vie humaine. Voilà le dessein évoqué dans 2 Timothée 1:9. Nous avons été sauvés pour son propre dessein. Vivons pour cela. Amen. Grandé, c'est seulement par le fait que Dieu devint homme pour que, comme Dieu, que le corps de Christ peut être produit et édifié. C'est le point culminant de la révélation divine que Dieu nous a donné. Voilà ce que le Seigneur a révélé à Saul de Tarse. Dans une manifestation puissante de sa lumière. Lorsqu'il a dit, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ? Me persécutes. La lumière l'a renversée. Il ne pouvait plus raisonner, réfléchir, argumenter. Il a dit, mais je ne te persécute pas, je persécute les croyants. Et le Seigneur a dit, bah, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ils font partie de moi. Je suis la tête du corps. Ils sont les membres de mon corps. Tu les persécutes, eux, tu me persécutes, moi. Ce mot « me » ou « moi » symbolise, résume l'intégralité du Nouveau Testament. C'est Christ et son peuple racheté qui deviennent une seule et unique entité. Le corps de Christ, l'épouse, le royaume, la Nouvelle Jérusalem. Tous les membres de votre corps prennent part à la vie de votre corps, la nature de votre corps. Si quelqu'un vous marche sur le pied, sur votre orteil, vous ne dites pas tout simplement « S'il vous plaît, enlevez votre pied de mon métatarse ». Non, vous dites « Ne me marchez pas dessus ». Ça vous est déjà arrivé, les frères qui sont mariés, vous voulez être plein d'affection avec votre épouse et vous voulez l'envelopper, vous la toucher sur le bras, sur l'épaule. Elle ne dit pas « Ne me touche pas l'épaule », elle me dit « Ne me touche pas ». Chaque partie de son corps fait partie d'elle. Donc nous faisons partie de ce « me », de ce « moi ». Nous faisons partie du Seigneur. Amen. Pour notre vie chrétienne et notre vie d'Église, amen, nous devons avoir une vision de la Nouvelle Jérusalem. Notre vie d'Église, dans l'Église recouvrée, sera élevée. Vraiment, si nous pouvons voir ce que le Seigneur souhaite accomplir et gagner avec nous, en nous. Il veut que l'Église recouvrée accomplisse sa volonté, puisse accomplir son dessein et parachever son économie. Et cela se fait au travers des vainqueurs dans l'Église recouvrée. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous devons être rafraîchis dans notre vision de ce que nous faisons ici. Nous sommes ici pour le Seigneur, pour son dessein, pour sa volonté, pour son économie, pour le désir qui est dans son cœur. Si nous avons cette vision de la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse, la mariée, et le Seigneur s'est donné. Il est le sauveur du corps. Hébreux 12 nous dit, il y avait cette joie qui était devant lui lorsqu'il était sur la croix. Seulement le Père connaît la souffrance qu'a endurée notre Seigneur. Il a souffert la mort et alors qu'il souffrait, il y avait une joie qui était là, devant lui, devant ses yeux. Je crois sincèrement que cette joie était son épouse qui serait produite au travers de sa mort et de sa résurrection. Il l'aimait. Alors qu'elle était toujours morte dans les offenses et dans les péchés, il s'est donné pour elle. Il s'est donné pour son épouse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux maris, aux hommes mariés, si vous êtes vraiment un avec le Christ tout inclusif, aimez votre épouse, aimez votre femme, tout comme Christ a aimé l'Église, aime l'Église, et s'est donné lui-même pour elle. J'ai une appréciation toute fraîche lorsque je considère ce sujet-là. La joie qui était devant lui, ce n'était pas les cieux. Ce n'était pas un million de personnes, un milliard de personnes dans les cieux, au paradis. Non! J'ai payé ce prix, je les ai rachetés, je les ai ramenés à Dieu afin que le dessein éternel de Dieu, son économie éternelle, son économie divine puisse s'accomplir au travers d'eux. J'aurai mon corps, j'aurai le nouvel homme, j'aurai l'épouse. Voilà la joie, voilà pourquoi je meurs pour elle. Je meurs pour elle. Votre cœur va fondre en ayant cette pensée. La Nouvelle Jérusalem, grand A, est une composition de la divinité et de l'humanité, mélangée, mêlée et édifiée ensemble comme une entité. Tous les composants ont la même vie, nature et composition, et sont donc une personne collective. Donc la Nouvelle Jérusalem finit par devenir le Dieu racheté et son épouse qui sont unis l'un à l'autre. Grand B, la Nouvelle Jérusalem, est le parachèvement de la vision centrale de l'économie de Dieu et du point culminant de la révélation divine. La Nouvelle Jérusalem, le parachèvement ultime de la Bible, implique le fait que Dieu devint homme et l'homme devint Dieu en vie et en nature, mais pas dans la déité. En Christ, Dieu est devenu homme pour faire l'homme Dieu dans sa vie et sa nature, afin que Dieu, le Rédempteur, et l'homme racheté puissent être mélangés, constitués ensemble pour devenir une entité, la Nouvelle Jérusalem. Pour ne faire qu'un avec nous, il a dû nous racheter, nous purifier, nous pardonner, nous justifier. Puis, il a pu entrer en nous. Avant que ce verre puisse être rempli d'eau, le verre a dû être lavé complètement. Et le lavage du verre n'est pas simplement pour avoir un verre propre, c'est pour avoir un récipient qui peut contenir quelque chose. Nous avons été créés comme un récipient, comme un vase. Nous avons été rachetés de tous les péchés, de toutes les transgressions, de la mort, de un ensemble de choses. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés. Notre passé est oublié, nous sommes une nouvelle création, nous sommes un vase purifié. Et ainsi, le Dieu trinitaire peut entrer en nous et ne faire qu'un avec nous. Le Dieu trinitaire nous sommes au B. Finalement, le Dieu trinitaire éternel devient la Nouvelle Jérusalem constituée de nous tous et nous devenons aussi la Nouvelle Jérusalem à travers le processus du salut organique. Je ne fais que lire parce qu'il faudrait 10 ou 20 messages pour vraiment rentrer dans les détails. Donc, je vais simplement les présenter en les lisant. Donc je fais confiance à votre cœur, à votre recherche du Seigneur pour approfondir ces points-là. Petit 2, la Nouvelle Jérusalem est une composition du peuple de Dieu, élu, racheté, régénéré, sanctifié, renouvelé, transformé, rendu conforme et glorifié, qui a été déifié. Déifié veut dire nous sommes devenus Dieu dans la vie et dans la nature, mais pas dans la déité. Petit A, que nous soyons déifiés signifie que nous sommes constitués du Dieu trinitaire, passé par un processus et parachevé, afin que nous puissions devenir Dieu en vie et en nature pour être son expression collective pour l'éternité. Il y a ici le verset Apocalypse 21:11, la gloire de Dieu, la pierre de jaspe. Pour l'exprimer, nous devons devenir Dieu. C'est pour ça que nous avons ce verset dans Romains 5, verset 10. Nous serons sauvés d'autant plus dans sa vie. Nous avons été rachetés par son sang, mais maintenant, il nous faut être sauvés par sa vie, ce qui veut dire que nous devons être sanctifiés, saturés par la sainteté de Dieu. Nous devons être renouvelés également. C'est la Nouvelle Jérusalem. Nous devons être renouvelés. Je suis plus nouveau aujourd'hui que quand j'avais 50 ans. Plus je serai âgé, plus je serai renouvelé, plus je serai nouveau. Vous êtes plus nouveau maintenant que vous l'étiez il y a 3 ans. Nous sommes renouvelés jour après jour. Seul Dieu est nouveau. Nous serons nouveaux comme Dieu est nouveau. Nous serons pleins de fraîcheur, vibrants, vitaux, vivants et actifs. Alléluia. Et nous serons alors transformés dans notre âme. Ainsi, notre âme exprimera le Seigneur et nous serons rendus conformes à son image. Et puis finalement, nous serons glorifiés. Notre corps sera transfiguré, glorifié. Christ en nous est l'espérance de la gloire. il viendra de deux façons simultanées. Simultanément, objectivement, il viendra aussi depuis notre intérieur. Lorsqu'il émergera, nous aurons un corps glorifié. On pourra toujours se reconnaître, nous aurons notre identité. Je crois qu'il faudra qu'on s'habitue. Waouh ! Nous dirons, waouh, mon frère Simpson, mon frère Michael, Michael, tous mes frères. Oui, vous êtes Simpson, mais vous êtes glorifié maintenant, tu es glorifié. Et moi, tu es Ron, mais tu es glorifié. Oui, c'est vrai, cela va se produire. Cela va arriver et tout cela s'achève dans la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse, la mariée, l'épouse du Dieu rédempteur. Petit b, la déification des croyants est un processus qui se parachèvera dans la nouvelle Jérusalem. C'est la vérité la plus élevée et l'évangile le plus élevé. Il s'agit ici d'un processus. Ainsi, s'il vous plaît, lorsque vous vous réveillez, donnez la nouvelle journée qui débute au Seigneur. Consacrez-la au Seigneur en disant « Seigneur, c'est une journée de plus dans ce processus. Gagne davantage de terrain, de place en moi et tous les saints en Europe, tous les saints dans le recouvrement, fais la même chose. Gagne plus de place dans chacun de nous. » La nouvelle Jérusalem est l'homme-Dieu corporatif. Amen. L'élargissement, l'expansion et l'expression de Dieu. Le Dieu corporatif. Nous parlons ici de l'économie de Dieu. Dieu en lui-même ne pourra jamais être corporatif. Lorsqu'il entre dans chacun de nous, il est corporatif dans ce sens-là. Dieu en lui-même est unique. Il restera toujours ainsi dans la déité. Lorsqu'il entre en nous comme l'Esprit, il est incorporé dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous évoquons, nous utilisons ce terme, le Dieu corporatif. Dieu est exprimé corporativement. Mais nous, éternellement, nous adorerons le véritable et le seul Dieu vivant. Il a la déité, nous ne l'avons pas, absolument pas, nous l'adorerons lui pour l'éternité, comme le seul et véritable Dieu. La nouvelle Jérusalem, petit a, est l'expansion et l'expression du Dieu trinitaire passé par un processus et parachevé avec son peuple élu, racheté, régénéré, sanctifié, renouvelé, transformé, édifié, rendu conforme et glorifié. Voilà la séquence. Cela suit exactement la révélation que nous avons dans le livre, dans l'Épître aux Romains. Nous sommes ceux, nous avons été choisis, nous avons été élus, dans Éphésiens 1, 4 et 5. C'est évoqué dans Éphésiens 1, 4 et 5. Nous avons été rachetés, nous le savons, nous avons été régénérés. Pardonnez-moi de dire, là, maintenant, des chrétiens sur toute la terre, dans des édifices physiques, adorent Dieu. Beaucoup ne sont pas allés plus loin que cette étape de la régénération. Certains, de leur vie tout entière, ne progressent absolument pas de cette étape de la régénération. Mais la régénération doit nous conduire à être sanctifiés de plus en plus, à être renouvelés, à être transformés, à être édifiés, à être rendus conformes, puis glorifiés. Ainsi, tous ces termes, toutes ces étapes, sauf glorifier, devraient être notre expérience avant que nous terminions notre chemin sur la terre. La gloire est à l'intérieur de nous, nous sommes transformés de gloire en gloire, mais nous attendons, comme ceux qui recherchent le Seigneur, comme dans Cantique des Cantiques. Avez-vous remarqué dans Cantique des Cantiques, il débute ce livre et se termine par un baiser. Dans Cantique des Cantiques, au tout début, laisse-le m'embrasser avec les baisers de sa bouche. Ton amour est meilleur que le vin. Et au chapitre 8, à la fin, cela représente donc celle qui aime le Seigneur, l'amoureuse du Seigneur, qui représente l'Église, Elle devient donc la Sulamite. Au chapitre 7, elle œuvre avec le Seigneur, avec Salomon. Et au chapitre 8, à la toute fin, notre seule espérance, c'est le retour du Seigneur, que le Seigneur revienne. L'amoureuse dit, lorsque je te vois en dehors de la chair, à l'extérieur, lorsque je serai enlevé, je t'embrasserai. J'aime vraiment beaucoup ce cantique. Seigneur, tu apparaîtras, tu viendras bientôt. Le jour est presque, le jour est proche. J'aime beaucoup ce refrain. Oh, quelle heure agréable, quel moment agréable quand l'épouse et l'époux se rencontreront. Et c'est un amour qui va au-delà de notre compréhension. Est-ce que vous pensez, lorsque l'épouse et l'époux se rencontreront, ce sera quelque chose de formel? Le Seigneur vous dirait, par exemple, comment vas-tu? Comment allez-vous? Je m'appelle Seigneur Jésus. Nous avons été fiancés, nous allons nous marier. Et toi, qui es-tu? Non, moi, mon attente est plutôt que ce sera quelque chose de tout à fait une affection divino-humaine. À ce moment si agréable. Ne voulez-vous pas en faire partie lorsque l'épouse et son époux se rencontreront? Le point B nous dit que la Nouvelle Jérusalem est l'élargissement et l'expansion de Dieu, l'expression de Dieu dans l'éternité, c'est-à-dire le Dieu corporatif tel que nous l'avons décrit précédemment. Toutes ces choses que nous avons évoquées dans ces cinq messages nous amènent à ce point culminant. Nous amène au verset 12 du chapitre 3 d'Apocalypse. Parce que les vainqueurs deviennent cela. Et quand ils deviennent ce que nous allons voir, alors l'économie divine a été alors parachevée. L'intention de Dieu a été accomplie. La volonté de Dieu a été accomplie. J'écrirai sur lui le vainqueur, le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mettez ces deux parties ensemble. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu avec le verset 2 du chapitre 21. La Nouvelle Jérusalem descend, parée comme une épouse pour son époux. Ainsi, devenir la Nouvelle Jérusalem, c'est devenir l'épouse. Parce que l'épouse est la Nouvelle Jérusalem. Voilà le cœur du message. Voilà l'essence même, le fardeau que le Seigneur m'a donné, à placer en moi pour notre conférence ici à Barlow, pour vous tous. Que nous puissions voir ceci. Le Seigneur vient pour son épouse. L'épouse est la Nouvelle Jérusalem. Le dessein éternel de Dieu ne s'accomplira que dans l'Église recouvrée. Voilà ce qu'il a ordonné, ce qu'il a établi. Quand il a dit, je bâtirai mon église, ou l'église. Dans l'église recouvrée, donc, il a besoin que des saints aient le genre d'expérience que nous allons décrire intérieurement, alors qu'ils mènent leur vie humaine et leur vie d'église, normalement. Ainsi, afin qu'ils aient le nom de la cité Nouvelle Jérusalem inscrit sur eux, nous le verrons après avoir lu, dans les cinq prochaines minutes, parce qu'ils deviennent l'épouse. Voilà le point culminant que nous atteignons. Lorsque le Seigneur, depuis les cieux, regarde toutes les églises sur la terre, des centaines et des centaines d'églises, alors il y verra une personne qui est formée, qui, nous l'espérons, auprès de milliers de croyants. Il dira, voilà mon épouse, mon complément. Cela fait des années que je prie, que je sers pour cela, que je me donne pour cela, que je prie pour cela, que je combats pour cela. Et mon épouse est maintenant prête. Et je sais qu'elle est prête. Et c'est pour ça que dans les dernières années, la situation mondiale, je l'ai réarrangée. Ainsi, le mont du Temple a été dégagé. Israël a fait une alliance avec un leader européen. Le Temple a été rebâti, reconstruit. Il y a des choses extérieures, visibles. Mais je sais que mon épouse, elle est prête. Alors là, il y a l'enlèvement, en un instant. Les prémices, l'épouse, sont emmenées directement jusqu'au trône de Dieu. Les noces débutent. La grande tribulation débute également. Alors le Seigneur dira, d'une manière ou d'une autre, « Ma chère épouse, nous allons faire un voyage. Nous allons aller à Armageddon tous les deux. Tu es mon armée à présent. Et que je devrais me mettre ?» répond l'épouse, avec « pour suivre mon général. » « Ma chère épouse, tu es déjà en uniforme. » Ta robe de mariée est ton uniforme. La raison pour laquelle je t'ai épousée, c'est parce que tu es une combattante terrible, spirituelle. Donc allons-y tous les deux. Graduellement, petit à petit, ils descendent jusqu'à arriver dans le nuage. La situation sur Terre deviendra impossible. Pour Israël, ils ne pourront plus se défendre, ils ne pourront plus préserver leur nation. Et cela accomplira. Non, ils vont prier comme l'Ancien Testament le dit. Seigneur, déchire les cieux, ouvre les cieux et descends. Et alors là, il viendra avec son épouse guerrière pour s'occuper de l'ennemi, pour abolir tous les gouvernements humains, pour éliminer l'argent, pour établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Voilà la vision qui gouverne véritablement chaque souffle que je prends, chaque respiration que je prends. Et nous avons alors résolu les problèmes sur la terre, nous avons accompli le désir qui est dans le cœur de Dieu. Amen. Donc ce processus doit véritablement prendre place dans l'Église recouvrée. Nous savons au travers des épîtres que l'Église à Thyatire, les épîtres à Sardes, à Laodicée, que le Seigneur peut avoir des vainqueurs dans ses églises. Et je crois notamment, que Billy Graham était un vainqueur. Ceux qui sont recouverts de vêtements de fin lin blanc resplendissant, c'est la responsabilité du Seigneur d'avoir laissé avoir des vainqueurs dans ces églises-là, mais seulement ceux qui sont dans l'église recouvrée pourront permettre l'accomplissement de son dessein et le parachèvement de son économie. Que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau du Seigneur soit écrit sur le vainqueur indique que le vainqueur est possédé par Dieu. Il est possédé par la Nouvelle Jérusalem et il est possédé par le Seigneur. Point virgule. Cela veut également dire que Dieu lui-même, sa ville, la Nouvelle Jérusalem, et le Seigneur lui-même, lui, appartiennent tous. Et cela veut également dire qu'il est un avec Dieu, avec la Nouvelle Jérusalem et avec le Seigneur. Donc le vainqueur est constitué de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, et le Seigneur. Il devient l'équivalent pareil à Dieu, au Seigneur, en vie, en nature. Il devient alors la Nouvelle Jérusalem. Et je le dis à nouveau, c'est une personne, l'épouse. Avoir le nom Nouvelle Jérusalem écrit sur nous veut dire que vous faites partie de l'épouse à présent. C'est la désignation qui est donnée, qui désigne ce que vous êtes devenu, ce nom. Le nom de Dieu, grand B, désigne Dieu lui-même. Le nom de la Nouvelle Jérusalem désigne la cité elle-même. Et le nom du Seigneur dénote le Seigneur lui-même. Parfois, certains disent, le nom veut dire simplement que vous appartenez. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Cela désigne ce que vous êtes devenu. Que le nom de Dieu, grand C,
le nom de la nouvelle Jérusalem. Et le nom du Seigneur soit écrit sur le vainqueur indique que ce que Dieu est, la nature de la nouvelle Jérusalem et la personne du Seigneur ont tous été forgés dans le vainqueur. Voilà le but de notre vie personnelle avec le Seigneur, que ce que Dieu est a été transmis en nous, forgé en nous, œuvré en nous. La nature de la nouvelle Jérusalem est la nature de l'épouse, l'amour qu'elle lui porte par exemple, la maturité qu'elle a atteint. Elle est édifiée, elle est dans l'unité, elle est belle, elle est magnifique. Elle a l'expérience du combat spirituel. Son vêtement des actes justes des saints qui ont été coups sur elle au travers des expériences qu'ils ont pu avoir dans leur âme en servant le Seigneur, en prenant soin des gens, en prêchant l'Évangile, en donnant à l'Église. Toutes ces choses-là ont vraiment été, ça a été cousu sur l'épouse, comme les actes justes des saints. Le nom du Seigneur, Christ, fait de notre cœur sa maison. Ça, c'est vraiment le point culminant de la vérité qui est œuvrée de manière pratique dans l'Église recouvrée pour parachever l'économie divine. Et au centre de cela, il y a l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse, la mariée. Donc ce qu'il y a dans mon cœur, et ce qui vient du cœur du Seigneur, est que sur la terre tout entière, il y a des saints, que les saints puissent voir cela. Et que personnellement, dans leur vie avec le Seigneur, qu'ils puissent venir auprès du Seigneur, là où vous en êtes, peu importe là où vous en êtes, n'ayez pas peur, ne vous mesurez pas, ne vous comparez pas aux autres. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes, venez vers lui. Il vous amènera de là où vous êtes aujourd'hui jusqu'à l'accomplissement d'Apocalypse 3:12. Parce que quelqu'un est parti pendant 10 ans, pendant 25 ans, et puis avec nous, le Seigneur vous a ravivé, vous a ramené, vous vous réjouissez, nous nous réjouissons, et l'ennemi alors vient vous voir, il vous ment à nouveau. Il dit, ah, maintenant tu es revenu parmi nous, mais c'est trop tard, tu as perdu trop d'années. Ça c'est un mensonge, je veux le dire. Et j'aimerais parler devant le menteur. Toi, méprise, nous t'en méprise, oui. Abominable menteur, arrête tes mensonges, arrête d'injecter des mensonges dans mes frères et dans mes sœurs. Non, le Seigneur les a ramenés ici parce qu'il va les glorifier en les amenant jusqu'au bout. Il va le faire dès à présent, il va le faire dans cet âge, pas dans l'âge qui vient. Il va rendre toutes ces années qui ont été dévorées. Il va œuvrer en eux avec l'esprit sept fois intensifié, une grâce sept fois intensifiée, une résurrection sept fois intensifiée, un amour sept fois intensifié. Beaucoup de choses peuvent se dérouler en une seule année. Nous allons y arriver parce que le Seigneur est pour nous. Il nous a amenés pour cela, dans ce but-là. Et le dernier point, à présent, se réfère à ce qui va se arriver. La mention de la Nouvelle Jérusalem comme une récompense pour le vainqueur indique que cette promesse sera accomplie dans le royaume des 1000 ans. La Nouvelle Jérusalem dans le royaume de 1000 ans sera une récompense. Souvenez-vous, la Nouvelle Jérusalem est l'épouse. Donc nous serons l'épouse, la mariée, dans le royaume. Les autres croyants nous rejoindront après 1000 ans. Le Père, dans sa sagesse, les perfectionnera. Ils n'ont pas payé le prix dans cet âge, donc ils paieront le prix dans l'âge qui vient. Mais nous, directement, nous irons de l'Église recouvrée aux noces de l'agneau, au royaume. Et je suis tellement heureux. Mon esprit est en train de danser. Mon cœur se réjouit. Le fardeau a été libéré. Seigneur, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Gagne-nous tous au plus haut point. Sature-nous de toi. Imprègne-nous. Fais de nous des fils, filialise-nous, christifie-nous, déifie-nous, fais de nous comme toi, fais de nous ton complément, fais cela Seigneur dans notre vie sur cette terre et enlève-nous jusqu'aux noces. Tu as dit je viens bientôt Seigneur, oh nous te demandons d'accomplir ta parole, Seigneur Jésus, viens bientôt. Priez avec votre voisin à présent et nous aurons ensuite le partage, la prophétie. Amen.